Radio Classique et votre journée devient plus belle.
Lundi 27 juillet, 7h sur Radio Classique.
La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
Et on les attendait depuis presque 3 semaines. Ils sont enfin là. Les secrétaires d'État ont été nommés hier soir. Le détail dès le début de ce journal. Les députés, pas encore en vacances, ils examinent à partir d'aujourd'hui le très sensible projet de loi bioéthique. Et puis un parking transformé en salle de concert. Les spectateurs du Festival de musique classique de Charmey en Suisse restent dans leur voiture. Solution innovante, bien sûr, face aux restrictions sanitaires.
Radio Classique.
Baptiste Gabory, le gouvernement Castex enfin au complet.
Et oui, 3 semaines après la nomination des ministres, la liste des secrétaires d'État a été dévoilée hier soir. 5 de ces secrétaires d'État sont reconduits. Sophie Cluzel aux personnes handicapées, Jean-Baptiste Lemoyne au tourisme, par exemple. Et ils sont 6 nouveaux. Bonjour Rémi Vallès.
Bonjour Baptiste.
6 entrants, dont le conseiller de l'Élysée Clément Beaune aux affaires européennes.
Oui, Clément Beaune, c'est le monsieur Europe d'Emmanuel Macron, un énarque. Lui aussi, fidèle de longue date du président. Et c'est à cet inconnu du grand public âgé de 38 ans que l'on doit l'élaboration de la politique européenne du chef de l'État, un homme discret qui sort de l'ombre quelques jours après le sommet historique de l'UE, où les 27 se sont entendus pour un plan de relance post-Covid de 750 milliards d'euros. Parmi les autres nouvelles têtes, des députés LREM en vue, comme Olivia Grégoire, l'élue parisienne, pilier du groupe majoritaire à l'Assemblée et nommée à l'économie sociale et solidaire. Joël Giraud, député marcheur des Hautes-Alpes, se retrouve lui en charge de la ruralité. À la biodiversité, c'est la députée de Haute-Marne, Bérangère Abba, qui succède à Brune Poirson. Enfin, le Modem, qui s'estimait lésé après la première phase du remaniement, n'est pas oublié, avec 2 secrétaires d'État à l'éducation, Nathalie Elimas et Sarah El Haïry, des femmes légèrement majoritaires dans ce nouveau gouvernement qui compte pas moins de 42 membres. Elles sont 22 contre 21 hommes, en comptant le Premier ministre Jean Castex.
Merci beaucoup Rémi Vallès. Tout ce nouveau monde se retrouvera mercredi à l'Élysée pour le Conseil des ministres.
Alors, autre rendez-vous à l'Élysée, Baptiste, c'est ce matin le 5e Conseil de défense écologique.
Rendez-vous à 10h30 autour d'Emmanuel Macron. Le gouvernement devrait annoncer des premières mesures issues des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, mesures réglementaires applicables immédiatement. Le Premier ministre Jean Castex se fait, lui, dans une tribune publiée aujourd'hui dans Ouest France, le défenseur d'une écologie de terrain et de proximité autour d'éléments concrets comme la rénovation thermique, les pistes cyclables ou encore les énergies renouvelables. Par ailleurs, le ministre de l'économie Bruno Le Maire annonce que 30 milliards d'euros seront consacrés à la transition énergétique sur les 100 milliards du plan de relance que présentera le gouvernement à la fin du mois d'août.
Le projet de loi bioéthique fait son retour aujourd'hui aussi à l'Assemblée nationale.
C'est l'une des réformes emblématiques du quinquennat. Le texte avait été voté en première lecture en octobre dernier avant d'être repoussé en raison de la crise du coronavirus. Ce projet de loi sera le dernier de cette session d'été et les débats s'annoncent une nouvelle fois mouvementés. Rémi Pfister.
L'accès à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, c'est la mesure phare de ce projet de loi bioéthique. Les associations, une partie de la majorité ont demandé au gouvernement de l'inscrire à l'ordre du jour avant les vacances, un texte qu'on ne peut plus repousser selon le médecin et député à LREM Jean-Louis Touraine.
Les couples de femmes qui veulent bénéficier de la PMA attendent cela depuis déjà 7 ans, au moment où le mariage pour tous a été attribué. Alors certaines vont en Espagne ou en Belgique, d'autres font des PMA artisanales mais avec des risques notables. Et les dernières, eh bien, elles attendent. Et si elles avaient 33 ans au moment du mariage pour tous, aujourd'hui elles en ont 40. Elles ont peur de perdre leur fécondité très très vite.
Au menu cette semaine, 2300 amendements, pas moins de 25 heures de débat. En première lecture, les discussions avaient déjà permis d'élaborer un texte équilibré, selon Jean-Louis Touraine.
Avec des avancées qui ne sont pas révolutionnaires, mais qui sont sensibles, qui permettent d'attribuer à ceux qui veulent recevoir des transplantations d'organes, qui veulent avoir accès à leurs origines, pour les femmes qui peuvent conserver leurs ovocytes, ça leur permettra d'en bénéficier maintenant. Je rappelle que toutes ces avancées existent sur le plan médical depuis déjà le siècle passé.
Un texte pourtant qui suscite toujours des critiques de la part de la Manif pour tous. Les opposants dénoncent une loi représentant un changement de civilisation. Une action est prévue à 12h30 devant l'Assemblée nationale.
Un sujet signé Rémi Pfister pour Radio Classique. Il est 7h04, on continue le journal. Les soirées sur la plage à Quiberon, c'est terminé.
Les plages, mais aussi les parcs et les jardins sont interdits désormais de 21h à 7h du matin. La mesure est en vigueur depuis hier soir. La ville du Morbihan, considérée désormais comme un cluster après la découverte ces derniers jours de 54 cas de Covid-19, notamment des jeunes ayant participé à des rassemblements privés ou à des soirées dans des bars. Tour de vis prévu également en Belgique. Un nouveau conseil national de sécurité est organisé aujourd'hui. Le nombre de nouvelles infections a augmenté de 63% dans la semaine du 15 au 21 juillet et la ville la plus touchée est celle d'Anvers. Yves Kopiters est épidémiologiste et professeur de santé publique à l'Université libre de Bruxelles.
Anvers est une ville portuaire avec un brassage de population très important au niveau international. C'est une ville aussi assez jeune au niveau touristique et donc fatalement les gestes barrières sont moins appliqués. Et puis c'est une ville qui a plusieurs communautés et donc il y a des retours déjà de l'étranger, d'Israël, de Turquie qui sont des pays rouges entre guillemets en termes de contamination pour l'instant et donc sans doute qu'il y a toute une série aussi de cas importés vu le retour de l'étranger ou des vacances. Donc c'est les conséquences de la reprise d'activité et au fait aussi que le mois de juin le virus circulait beaucoup moins fort sur le territoire et que les gens avaient l'impression que l'épidémie s'était quasi éteinte et donc avait repris des habitudes tout à fait normales.
L'épidémiologiste Yves Kopiters avec Alexandra Sirgan. À l'étranger toujours, l'Amérique latine et les Caraïbes sont devenues hier la région du monde avec le plus grand nombre de contaminations, plus de 4 300 000 cas. Aux États-Unis, la société de biotechnologie Moderna lance aujourd'hui la dernière phase de son essai clinique pour un vaccin contre le Covid-19. Vaccin qui sera testé sur 30 000 personnes. Le gouvernement américain s'est engagé à porter jusqu'à 1 milliard de dollars son soutien à ce projet.
Alors Baptiste, on le sait, de très nombreux festivals ont été annulés cet été, Covid oblige. D'autres ont décidé de s'adapter. Exemple, en Suisse, avec un festival de musique classique depuis sa voiture.
Un drive-in festival. Vous assistez au concert tout en restant dans votre voiture. Ça se passe à Charmey, à une quarantaine de kilomètres de Fribourg, pour le festival du Lied, initiative lancée par la fondatrice de ce festival, la chanteuse d'opéra mezzo-soprano Marie-Claude Chapuis.
Ce métier, c'est toute ma vie. Il y a eu des annulations terribles, notamment à la Philharmonie de Paris, où je devais chanter la messe en si avec René Jacobs. Il y a eu vraiment beaucoup de tristesse. Donc, il a fallu innover. Comme j'ai justement la chance de diriger ce festival, j'ai imaginé ça sous forme de drive-in pour que le public soit en sécurité. C'est aussi beau de pouvoir inviter une trentaine d'artistes. Je suis très heureuse que tous ces gens puissent venir et je crois aussi qu'ils sont très touchés de pouvoir faire un concert. Pour beaucoup d'entre eux, c'est le premier après le confinement et pour beaucoup, c'est le seul qu'ils ont cet été en tout cas.
Marie-Claude Chapuis au micro, Radio Classique de Lucie Cocard. En bref, en football, la Juventus de Turin sacrée hier soir championne d'Italie. C'est son 9e titre consécutif, son 36e au total. Enfin, elle était considérée comme la dernière légende vivante de l'âge d'or d'Hollywood. L'actrice Olivia de Havilland est décédée hier à l'âge de 104 ans à Paris. Deux fois oscarisée, elle avait été aussi la première femme présidente du Festival de Cannes. Olivia de Havilland reste indissociable de son rôle phare, Mélanie, dans Autant on emporte le vent.
La disparition de Olivia de Havilland, qui vivait à Paris maintenant depuis une cinquantaine, soixantaine d'années, depuis qu'elle s'était mariée avec un journaliste de Paris Match, Autant on emporte le vent, film de 1939, sorti juste après la guerre en France, film controversé ces derniers temps, jeté en pâture comme d'autres films, d'autres réalisateurs, d'autres romans.
Merci. Retiré même de certains catalogues.
Voilà, bon, tout le monde jugera. Merci beaucoup Baptiste Gabory, à tout à l'heure. Il est 7h09 sur Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'écho, l'édito économique avec François Vidal des Échos. Tiens, comment relancer l'économie américaine? Combien de milliards mettent sur la table? Vif débat là-bas. Et puis juste après, Laurent Favre, directeur général de Plastic Omnium. C'est l'un des grands équipementiers auto mondiaux, secteur ébranlé par la crise. Tiens, comment on en sort de cette crise? À tout de suite.